Bienvenue à Sur la ligne. Pour ce 16e épisode de la saison, on revient sur cette belle victoire d'Alcaraz à Barcelone. Se place-t-il maintenant comme le principal prétendant à Roland-Garros? À l'inverse, Novak Djokovic perd pour une deuxième fois rapidement dans le tournoi. Un rare fait. Doit-on commencer à s'inquiéter? Et on regarde évidemment ce qui s'est passé du côté des Canadiens. Et justement, c'est le retour de Félix Auger-Aliassime en l'absence de Nicolas Richard, Hugues Léger. Es-tu prêt?
Ok, oui. Et c'est parti!
Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode du Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale sur la ligne, en compagnie de mon collègue, estimé collègue aujourd'hui, Hugues Léger, en direct du magnifique parc Jarry dans les bureaux du stade IGA. Comment te portes-tu, mon cher ami?
Ça va bien, ça va bien. Je suis déçu de ne pas faire un tournoi ce week-end parce qu'on dirait que tout le monde gagnait une voiture ce week-end. Donc, Stuttgart avec la fameuse Porsche que Gas Viatek a remportée, puis Holger Rune à Munich avec la BMW. Mais trêve de plaisanterie, ça va bien, ça va bien. Dernier week-end de tournoi sportif pour mon garçon. J'étais dans un tournoi de hockey dans cette belle journée de samedi à Boucherville, donc au froid. J'ai manqué la plus belle journée du week-end, mais sinon, ça va très bien. On a eu du beau tennis à part ça.
Mais Colin, tu étais à côté de chez nous dans mon patelin, parce que moi, je suis juste à côté de Boucherville, mais je n'y étais pas. Ce week-end, j'étais beaucoup plus près du patelin de notre collègue Nicolas Richard. J'étais à Saint-Sauveur, j'avais passé quelques jours là-bas, pas tant pour me reposer, mais j'ai travaillé pas mal ce week-end. Mais des fois, juste changer d'environnement, ça peut être bien intéressant. C'est bien beau, tu viendras faire ton tour. J'ai des terrains en terre battue rouge, je ne sais pas si tu sais ça. J'ai des terrains en terre battue rouge à Saint-Sau, en arrière de chez nous.
On va essayer ça, mais c'est sûrement de la terre battue rouge américaine quand même, là. Celle qu'il y a à Habitat 67 aussi, qui est un genre de hard true rouge, mais ce n'est pas la terre battue rouge française.
Ben, en tout cas, tu viendras le tester, peut-être que tu trouveras un trésor québécois dans ma cour. On peut aller à la plage en plus. Ben là, la plage, ça va être peut-être un peu plus tard que dans les prochaines semaines. Écoute, on va pouvoir se baigner. Parlant de se baigner, écoute, on va rentrer
bon lien
tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y en a un qui a sauté dans l'eau comme c'est la merveilleuse tradition. C'est vraiment une célébration cool. C'est une affaire de rien, mais c'est tellement beau à voir les gagnants de ce tournoi-là qui sautent dans l'eau avec les ball boys et les bénévoles. Carlos Alcaraz, champion à Barcelone. J'ai envie de dire, qui d'autre?
C'est vraiment une belle tradition, ce plongeon dans la piscine après la victoire, la remise du trophée avec les ball boys, ball girls. Et on voit aussi que le tournoi de Barcelone en fait un peu sa marque de commerce. Ils ont fait des très belles images après le tournoi avec une caméra sous-marine en plus. C'est vraiment un beau moment là, du tennis. C'est un beau ATP 500, celui de Barcelone. Et on a vu le champion... qu'on risque de voir beaucoup jusqu'à Roland-Garros. Là, je pense que, comme on le disait au niveau des manchettes, là, il devient l'homme à battre là, à Roland-Garros tout de suite. Là. C'est le joueur qui domine le circuit en ce moment, Carlos Alcaraz.
Oui, il a connu un bon tournoi, Alcaraz. Là. Bon, évidemment, il a battu, j'oserais pas dire facilement, mais de façon convaincante, est-ce que je peux le dire comme ça, un joueur si bon sur terre battue, Stefanos Tsitsipas?
Oui. Moi, vous le savez, je mets Tsitsipas dans les favoris de Roland-Garros ou dans les meilleurs joueurs sur terre battue. On sait qu'il était double champion à Monte-Carlo 2021-2022. C'est un des tops sur terre battue. Et de perdre 6-3, 6-4, c'est quand même une défaite nette. Là. Donc, Carlos, et c'était même pas proche, honnêtement. Là. Alcaraz avait une réponse à tout. C'est lui qui dictait les échanges. Carlos Alcaraz est à un autre niveau en ce moment. Je ne vois vraiment pas qui peut le battre en ce moment. Je vais le partager sur notre messagerie ce matin. Il est à un niveau au-dessus en ce moment, Carlos Alcaraz. Et je pense que les quelques semaines de repos lui ont fait du bien. Il était vraiment en grande forme à Barcelone cette semaine. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire à Madrid cette semaine.
Ouais, dans ce tournoi-là, il a battu Roberto Bautista Agut, notamment Alejandro Davidovich Fokina, un autre Espagnol, Daniel Evans. C'est quand même un bon tournoi. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de gimmies, comme on dit, dans ce tournoi-là, puis certainement pas en finale contre Stefanos Tsitsipas. Et là, la question qui se pose au-delà du résultat, et tu l'as effleuré un peu, c'est de savoir, est-ce qu'il est, au moment où on se parle, le grand favori? Quel début de saison il connaît quand même, Alcaraz? Ouais. Il est, Il n'est peut-être pas numéro un mondial, mais il est numéro un mondial de la façon dont il joue présentement. C'est le meilleur joueur au monde, je pense.
Alex, Alcaraz a 19 ans. Je vais commencer cette intervention-là par son âge. 19 ans, oublions pas. Il a déjà 9 titres ATP à son actif, dont un grand chelem, le US Open, 3 Masters 1000. Il a été 22 semaines numéro 1 et il n'a pas 20 ans encore. Prenons le temps de bien absorber ça. Il est vraiment exceptionnel, ce Carlos Alcaraz. Et en ce moment, dans la saison terre battue qui est en progression, malgré des bons résultats d'Olga Rooney, de Rublev, dont on va parler un peu plus tard, Alcaraz survole le groupe en ce moment là, dans cette saison de terre battue européenne. Et même si Djokovic revient en forme à Roland-Garros, et je le dis tout de suite, Alcaraz est l'homme à battre, c'est clair en ce moment.
Ce qui est fascinant là, de la progression de Carlos Alcaraz, et puis je sais qu'on en parle, ça devient comme presque un automatisme, mais ça, tu fais bien de résumer, de rappeler qu'il n'a que 19 ans. Mm-hmm. Écoute, j'ai sa fiche sous les yeux. Là. En 2021, il remportait un Challenger.
Ouais.
En 2021. Depuis, ouais. Il a plusieurs titres ATP, dont un titre en grand chelem au US Open, comme tu l'as dit. Et là, vient ajouter Indian Wells il n'y a pas si longtemps, en 2023. Et là, Barcelone, écoute, il est bon sur toutes les surfaces.
Exact.
Et on le dit souvent, il a une précocité qui ressemble étrangement à celle du Big Three.
Oui, puis je dirais même, et là, attention, il y en a qui vont, réagir, mais... À 19 ans, dans le Big Three, j'ai vu aucun joueur aussi complet à 19 ans. Il a tous les coups du tennis, Carlos Alcaraz. Sa façon d'ouvrir le jeu avec un niveau de réussite en amorti exceptionnel. Ses montées au filet sont décisives. Ses demi-volées fonctionnent. Il a un niveau d'agressivité sur tous les points. Il n'y a pas de balle neutre avec Alcaraz durant un échange. Il va toujours agresser. Il y a un niveau d'intensité et de réussite qui est incroyable. Et effectivement, ce qu'on voit, en tout cas, puis encore une fois, on ne parle pas de la durée encore. Il a 19 ans seulement. On verra où il sera à 25 ans, à 30 ans, pour comparer vraiment avec le Big Three. Mais âge pour âge, comparé avec un Nadal, par exemple, qui n'avait pas du tout un jeu aussi complet qu'Alcaraz au même âge, moi, je suis très, très, très impressionné par Alcaraz et par la relation avec Juan Carlos Ferrero, son coach, et comment Ferrero le développe en ce moment. C'est une sacrée réussite et je pense qu'on est en train de voir éclore un très, très grand champion sous nos yeux en Carlos Alcaraz.
Ouais, c'est probablement lui qui va dominer le tennis. Restons prudents, on en a parlé à quelques reprises, mais écoute, il nous donne beaucoup d'arguments pour appuyer ce fait-là. Donc, un autre titre, un 9e, comme tu le disais, pour Carlos Alcaraz. C'est un titre important à Barcelone parce que même si c'est un 500, ça reste quand même un bon tournoi baromètre également. C'était un très fort 500 quand tu regardes le tableau. Et justement, dans le tableau, écoute, je ne veux pas m'acharner sur ce bonhomme-là, mais encore une fois, Casper Ruud n'est pas allé trop loin dans ce tournoi-là, n'a joué que 2 matchs. Ça lui a pris tout son petit change pour battre Ben Shelton, puis s'est incliné à son 2e match, qui est un match de 3e tour, 7-6, 6-3 contre Francisco Cerúndolo. Honnêtement, est-ce qu'on est en train de le sortir des prétendants pour... Est-ce qu'il est dans le top 5 des joueurs que tu vas pouvoir mettre au moment où on se parle comme prétendant au titre à Roland-Garros?
Bon, Cerúndolo est un bon joueur. On sait qu'il a vaincu Félix. Je me souviens plus si c'était à Miami ou à Indian Wells. Mais bon, c'est un des bons joueurs du circuit en ce début d'année. Mais Casper Ruud est loin de démontrer qu'il est le joueur dominant sur terre battue qu'on a vu en 2022. Donc, moi, en ce moment, oui, j'ai un doute sur sa capacité. Je dirais même aller en 2e semaine à Roland-Garros. Donc là, on parle d'une descente importante quand même. Là. Donc, pour moi, dans mon top 8 pour Roland-Garros, même si son classement va le placer dans les favoris, je ne le vois pas gagner plus loin là, que les quarts de finale cette année, Ruud à Roland-Garros.
Wow! Et ça, on parle du finaliste à Roland-Garros pas plus tard que l'année passée et du finaliste au US Open pas plus tard que l'année passée. Et là, toi, tu dis, attention, je ne suis même pas convaincu qu'on le verra en 2e semaine de la façon dont il joue présentement.
Oui.
Écoute, ça se défend très bien parce que ça fait 3 semaines, je pense, d'affilée qu'on en parle. On dit on va garder un œil sur Casper Ruud. Enfin, la saison de terre battue, elle est revenue. Est-ce que ses résultats vont s'améliorer? Écoute, évidemment, on le dit souvent, là, il y a beaucoup de bons joueurs sur le circuit, mais il reste qu'on attend beaucoup de Casper Ruud qui est théoriquement considéré comme, je pense que j'exagère pas, un des top 5 meilleurs joueurs sur terre battue sur le circuit. Mais il est loin d'avoir prouvé ça en termes de résultats dans les depuis le début de la saison, je veux dire.
Ça, c'est l'analyse qu'on pouvait faire à la fin de la saison 2021 et en 2022, mais ça ne tient plus maintenant. Puis vous allez me dire, OK, c'est seulement 3 semaines. Il a gagné Estoril quand même, mais c'était un 250. Il n'y avait pas les gros joueurs là, du top 15, top 20 à Estoril, mais il a quand même fait un très beau tournoi. Après, ça s'est rapidement détérioré pour Ruud. Là, donc Monte-Carlo, Barcelone, on verra à Madrid. Mais si, encore une fois, il ne réussit pas à passer 2 tours à Madrid, ça va être un gros warning sign là, pour le reste de la saison sur terre battue. J'ai l'impression peut-être, Alex, aussi, que les joueurs ont appris à jouer ce joueur Casper Ruud depuis un an et demi. C'est souvent ce qui arrive. Un joueur va pointer rapidement. On sait qu'il a joué plusieurs tournois de plus petite envergure pour monter au classement. Il se retrouve 3e mondial et même été 2e à un moment donné dans les derniers 6 mois. Mais je pense que plusieurs joueurs ont trouvé le numéro pour battre Casper Ruud. Il ne semble pas du tout aussi dominant sur terre battue. Il fait beaucoup moins peur que l'an passé. Donc, ça se présente un peu moins bien pour Casper Ruud en ce moment.
Parlant de joueurs pour qui ça se passe moins bien et duquel on attend beaucoup, et d'habitude on commence avec les champions, mais là je vais commencer avec un joueur qui a perdu beaucoup plus rapidement. Je vais te parler de Novak Djokovic, qui perd au 2e tour. C'est un deuxième tournoi de suite qui perd au 2e tour.
Ouais.
Bon, évidemment, il n'a pas joué beaucoup depuis le début de la saison. Il a appris il nous a appris également qu'il ne jouera pas à Madrid.
Ouais.
La question qui se pose, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que là, c'est une défaite contre Lajovic qui, théoriquement, n'est pas un joueur dangereux. Cela dit, dans ce tournoi-là, il a prouvé tout le contraire parce qu'il a éventuellement remporté le tournoi, battant d'ailleurs Rublev en finale. Alors, peut-être que ça vient relativiser la défaite, mais il reste que c'est une autre performance. Je ne sais pas si « inquiétante » est le bon mot, là, honnêtement. Là, une saison, c'est long. Mais décevante dans le cas de Novak, parce que nos attentes restent très élevées. Je ne sais pas. Est-ce que je suis trop sévère?
Ben, il nous a habitués à un standard totalement exceptionnel. C'est vraiment un X qui réussit. Comment il est toujours bien préparé, il est fit. Quand il joue un tournoi, c'est pour le gagner, évidemment. Et on sait qu'il a une bonne chance à chaque fois qu'il rentre sur un tableau. Oublions pas, par contre, j'ai quelques éléments pour tempérer un peu là, ses résultats des 2 dernières semaines. Il est un peu blessé au coude. Il joue avec un sleeve, là, pour ceux qui ont vu sur son bras droit. Il n'est pas à 100%. Il manque de matchs. On le dit aussi, forcément, ça vient que ça rattrape un peu quand tu ne peux pas enchaîner des matchs. Tu es moins prêt mentalement. Tu n'es pas match tough, comme on dit. Donc, je pense qu'il y a quelques circonstances atténuantes et il faut creuser un peu sur ses résultats. Oublions pas que Lajovic a joué tout un match pour le battre quand même et il remporte le tournoi finalement. Donc, il perd contre l'éventuel champion qui bat quand même Andrei Rublev qui était le champion à Monte-Carlo il y a une semaine. Donc, ça relative un peu cette défaite contre Lajovic. Donc, ce n'est pas une mauvaise défaite. Je pense qu'un Djokovic à 100% devrait gagner ces matchs-là, mais là, il n'est pas tout à fait à 100%. Il reste du temps avant Roland-Garros. Je reviens à Monte-Carlo. Sa défaite contre Musetti, c'est un bon joueur de terre battue, Musetti. Il avait déjà poussé Djokovic à 5-7 à Roland-Garros l'an passé. Et Musetti sera en demi-finale à Barcelone la semaine dernière et il perd contre Tsitsipas. Donc, je pense que Djokovic n'est pas à 100%. Je pense qu'en ce moment, il gère son calendrier en se retirant de Madrid cette semaine parce qu'il ne veut pas, rencontrer des Alcaraz, Rooney, Tsitsipas avant Roland-Garros, je crois, maintenant. Il va dire, non, je vais guérir mon coude, je vais revenir pour Rome, je m'attends à ce qu'il soit là à Rome, pour finaliser sa préparation pour Roland-Garros. Donc, je ne m'inquiète pas tant que ça, finalement. Au début, moi aussi, je me suis dit, ouais, 2 défaites en tour, mais quand on creuse un peu, ce n'est pas des si mauvaises défaites que ça. Je pense qu'il manque un peu de jeu et il est un petit peu blessé. Donc, voyons voir Roland-Garros, mais c'est son objectif. Il a le chiffre 23 devant lui. Il veut dépasser Nadal à Roland-Garros. Et Nadal, dans l'état où il est, je ne pense pas qu'il va être un contender non plus ou un prétendant à Roland-Garros. Donc, Djokovic, soyons un peu prudents sur notre analyse du fait qu'il est pas en forme. Je ne crois pas que ça soit si simple que ça.
En gros, si je comprends bien ce que tu me dis, bon, non, c'est pas à la hauteur.
Exact.
Mais tu n'es vraiment pas pesé sur le bouton panique encore. Non. Donnons-lui plusieurs matchs encore. Oui. Laissons-le trouver son rythme. Oui. Une fois qu'il aura trouvé son rythme, on commencera une analyse qui se tiendra parce que pour l'instant, il est un peu comme en pré-saison, si on veut, à cause des moments où il n'a pas joué.
Je veux le voir jouer sans blessure apparente. Puis encore une fois, il faut qu'il joue quelques matchs là. Donc encore une fois, je pense que Roland Garros c'est l'objectif à atteindre. Il reste encore quoi 4 semaines. On commence le 28 mai à la Porte d'Auteuil à Paris à Roland Garros. Donc il reste du temps quand même pour de la COVID pour arriver à son mieux pour Roland Garros. Donc c'est le seul objectif qui compte. Maintenant il va tempérer, gérer son calendrier pour arriver à son paroxysme, à son pic à Roland Garros. Et je pense qu'on ferait une erreur de le sortir trop rapidement. Des favoris de Roland Garros, Djokovic.
En même temps, s'il a besoin de match, est-ce que ça n'aurait pas été mieux qu'il joue Madrid? Et là, est-ce que ça ne sous-entend pas qu'il y a peut-être un petit malaise, une petite blessure, peut-être qu'il est survenu à l'entraînement?
Oui. Oui, je pense qu'il veut guérir sa blessure. Je pense que la première raison, c'est qu'il faut qu'il prenne un petit peu soin de son bras droit un peu plus, qu'il y ait plus de repos un peu. Et le deuxième élément que j'ai mentionné, je pense qu'il n'a pas envie d'arriver pas à 100% contre un Alcaraz ou contre un Rune qui le battrait peut-être en 2-7. Et ça laisserait des traces pour la suite. Donc, je pense qu'il a fait un bon calcul en se retirant de Madrid. Mais il faut qu'il joue Rome, par contre, dans 2 semaines.
Ben, ça va être intéressant à suivre. Et qui sait, bon, peut-être bien qu'il va le remporter, ce tournoi-là. En même temps, c'est une belle victoire pour Dusan Najovic, qui a reconnu quand même un bon tournoi. Là. Aura battu au passage Krajinovic, qui n'est pas un mauvais joueur non plus. Grégoire Barrère, qu'on commence à parler de plus en plus, et Kecmanovic en demi-finale avant de battre Rublev. Alors, il a battu coup sur coup 2 excellents joueurs dans ce tournoi-là. 2 joueurs qui sont absolument dominants. Alors, vient de connaître le tournoi de sa vie. Lui, Dusan Najovic, je pense que c'est à ne pas en douter. C'est son deuxième titre en carrière, celui de Banja Luka. Il avait déjà remporté UMAG, lui aussi, tout comme Carlos Alcaraz d'ailleurs. Alors, deuxième titre ATP pour Dusan Najovic. Et quel tournoi il a reconnu? Il va probablement connaître le tournoi de sa vie. Parlons de Munich encore un peu et restons du côté des hommes. Ton analyse de ce tournoi-là et du champion?
Ben moi, je suis surtout fier de t'entendre parler de Botic van de Zandschulp, que c'est celui qui prononce le mieux son nom dans tous les médias du Québec. Et Holger Rune, écoute, très, très beau champion. Écoute, il est revenu de quelques points de la défaite. C'était 5-1 van de Zandschulp dans le troisième set. Mm-hmm. Mais Rune, encore une fois, le deuxième teenager, 19 ans, qui est en train de bouleverser le tennis à plusieurs égards. Qui se sauve avec le titre finalement, bien mérité, qui se sauve avec une BMW rutilante, toute neuve aussi, qui était un des prix, en plus du chèque qui était remis au gagnant du tournoi de Munich. Holger Rune, il faut compter sur lui, moi je vous l'ai dit il y a une semaine, Alcaraz, Rune et Tsitsipas, je crois, sont les trois en avant en ce moment pour Roland Garros, mais il démontre vraiment que c'est tout un joueur, Rune, puis encore une fois, qu'il a tout un caractère et une force mentale pour revenir de la situation où il était dans le troisième set.
Et je ne sais pas si tu as vu ça, mais Botic van de Zandschulp, il a mentionné à quel point cette défaite
a fait mal.
Et c'est intéressant parce qu'un des premiers qui a répondu, c'est Holger Rune pour dire « Écoute, je te comprends, ça, mais j'ai déjà été dans la même situation. » C'est intéressant de voir…
Très chic.
Oui, exact, c'est ce que je me disais. Et c'est très tennis, je vais le dire ça comme ça. C'était beaucoup de classe des deux joueurs de dire « ça prend un gagnant et puis je pense que j'aurais été curieux de voir les cotes au moment où Botic van de Zandschulp avait le match en main, là, il aurait pu remporter ce match-là. C'était quoi les odds, comme on dit, pour voir Holger Rune revenir dans ce match-là? Mais il reste que, c'est une défaite qui visiblement a fait très mal. Il l'a mentionné sur les médias sociaux. Et il a remercié les partisans après parce que je pense qu'il a reçu vraiment beaucoup d'appui. Là, évidemment, on peut comprendre la douleur quand tu as le match en main tu te fais remonter comme ça, et puis tu vois le titre t'échapper. Écoute, mais ce sera peut-être que partie remise dans son cas à lui. Et Holger Rune, mais tu le dis, c'est un des meilleurs joueurs au monde sur terre battue. Alors, Écoute, c'est que veux-tu? Ça, comme on dit, ça prend un gagnant dans ce cas-là. Autre joueur dont on voulait parler dans ce tournoi-là, et c'est un autre joueur qui va peut-être commencer à nous inquiéter, Alexander Zverev.
Oui, petite saison globalement sur terre battue. Je ne sais pas si son match contre Medvedev en quart de finale à Monte Carlo a laissé des traces. Peut-être qu'une petite crainte aussi. N'oublions pas que sa blessure à la cheville était survenue à Roland-Garros l'an passé. Mais oui, ce n'est pas une très bonne saison de terre battue pour Zverev en ce moment. Il n'est pas un facteur, selon moi, là, en vue de Roland-Garros. Mais je pense qu'il est encore dans sa phase de réhabilitation, de retrouver confiance. Je pense qu'il va arriver dans de meilleures dispositions pour la saison sur gazon et sur dur plus tard du côté américain.
Est-ce que c'est un peu comme Novak Djokovic, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué beaucoup sur terre battue, il n'a joué que Monte Carlo? Ouais. Bon, il a fait un match intéressant contre Medvedev, on en a parlé la semaine passée, là, ça a fait jaser beaucoup ce match-là, ouais. Mais en même temps, on va perdre au premier tour contre Christopher O'Connell, au premier tour, à son premier match, un match de deuxième tour. Honnêtement, pour le commun des mortels, je suis convaincu que Christopher O'Connell, c'était pas une menace pour Zverev. Je suis même assez convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est qui Christopher O'Connell, un Australien.
C'était pas lui qui faisait Robin dans Batman et Robin?
Ah oui, des années 90.
Oui, oui, oui. Non, mais effectivement, c'est une défaite quand même étonnante là, pour Zverev. Ouais.
Un acteur recyclé. Mais Chris O'Connell, je crois qu'il est américain par contre. Celui-là, ouais. Il est australien, mais australien. Homonyme. Certainement. Écoute, c'est un gars, quand tu regardes sa fiche, O'Connell qui a joué des Challengers cette année ou a perdu pour l'essentiel assez tôt dans les tournois. Toi, à Doha et Marrakech, il a bien fait. Il a fait une demi-finale éventuellement à Munich cette semaine, ce qui n'est pas si mal, mais quand même, Zverev, c'est un joueur qu'on attend sur toutes les surfaces. Alors, c'est une
défaite. Il va revenir.
Ouais, t'es pas inquiet pour lui non plus. Donc, ben positif aujourd'hui, Hugues. Souvent, là, toi et Nico, je suis obligé de vous ramener à l'ordre, mais là, je te sens très, très positif là, avec les joueurs. T'inquiète pas beaucoup pour les joueurs, alors ben voilà.
Ben, celui qui m'inquiète, c'est Rude en ce moment, mais pour les autres, ouais. C'est pas tant surprenant que ça dans les circonstances. Par contre, je suis inquiet et triste pour Rafael Nadal en ce moment, parce qu'il réussit pas à jouer de match. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour lui. On sait qu'il a perdu son beau-père la semaine passée. Mm-hmm. C'est un peu difficile pour Nadal et je pense que tout le monde souhaitait le voir arriver à son mieux pour Roland-Garros. Et là, on ne sait pas dans quel état il va arriver ou même s'il pourra jouer à Roland-Garros parce qu'on n'est pas certain de la suite pour lui. Donc, mon inquiétude est plus du côté de Rafael Nadal en ce moment et dans une moindre mesure pour Casper Ruud.
Ben, ma prédiction du début de saison ou de l'émission de fin de saison l'an passé, c'était que Nadal allait annoncer sa retraite à Roland-Garros.
Et la même chose.
Plus ouais. Ça avance, plus il y a des chances que ça se produise pour vrai, parce que je pense qu'il va tout faire pour jouer Roland-Garros. Je pense qu'il va être là. Mais je ne serais pas convaincu que ça. Je ne serais pas surpris que ça se termine après ça. On verra.
Oui, je pense la même chose. Là. Puis espérons qu'il pourra jouer. Puis tu sais, s'il sort, il perd au premier tour, au deuxième tour, ça serait une fin triste. Là. Mais encore une fois, on est dans une conjoncture qui est très incertaine pour lui en ce moment.
Oui, exact. Passons du côté des femmes, Hugues, parce qu'il y avait un autre tournoi, tu parlais d'une voiture à donner. Il y en a une qui a remporté une Porsche. C'est le grand retour d'Iga Swiatek qui a battu Sabalenka. Puis Sabalenka, honnêtement, continue d'avoir une méchante belle saison, une autre belle finale pour elle, mais perd contre Swiatek, ouais. Qui est de retour au sommet.
Ben écoute, si Alcaraz est dominant du côté masculin et le prétendant numéro un pour Roland-Garros, on peut déjà dire d'ores et déjà que Swiatek est la première prétendante aussi pour Roland-Garros. Victoire en 2-7 contre Sabalenka, 6-3, 6-4 aussi. Très solide. Quelle maîtrise sur terre battue, Iga Swiatek. Sabalenka, une des joueuses en forme de l'année 2023 jusqu'à maintenant, championne en Australie notamment. Non, Swiatek mérite et encore une fois sa place de numéro un. À chaque fois, j'ai comme un petit doute, là, mais elle efface mon doute assez vite que c'est elle qui est la chef du côté féminin en ce moment. Et effectivement, c'était le week-end des voitures allemandes, comme je le disais. Donc, BMW à Munich et Porsche à Stuttgart. Un bel événement. Et on a vu que la terre battue pouvait être une surface rapide quand Swiatek est sortie sur le terrain avec la voiture Porsche. Elle roulait assez vite. Les gens ont même dit « Wow! » C'est assez impressionnant de l'avoir allé, donc ça a été une sortie assez remarquée. Et on échangeait aussi sur le fait que Sabalenka, dans son discours, a dit « ça fait 3 fois que je viens, que je perds et que je veux cette Porsche. Donc, je vais revenir à ce tournoi-là pour le gagner tant que je n'aurai pas gagné cette voiture-là. » Donc, c'était assez rigolo de voir le commentaire de Sabalenka.
D'ailleurs, tu nous as envoyé l'image où, après la séance de photos, avec son trophée de deuxième place, à faire semblant de frapper la voiture, tout ça avec évidemment un beau sourire. Et honnêtement, on en parlait dans notre discussion privée. D'ailleurs, on devrait en publier des bouts, là, des fois, au point où on en parle tellement souvent. Là, les gens vont se demander, ils sont peut-être curieux de savoir ce qu'on se dit. Mais est-ce que Sabalenka n'est pas en train de devenir une des plus belles ambassadrices pour ce tennis-là? Elle est super sympathique. Bon, les résultats sont là. C'est probablement la meilleure joueuse depuis le début de la saison en termes de résultats, là, à brûle pour point comme ça. Mais écoute, elle est hyper sympathique.
Oui, elle est rafraîchissante, elle est candide. Elle a beaucoup de qualités. Une très, très bonne joueuse en plus, évidemment. Une grande championne. Et cette spontanéité est quelque chose d'extrêmement bon pour le tennis. Justement, elle ne sort pas la cassette quand elle parle aux médias ou quand elle parle au public. Elle a cette franchise-là qu'on voit. Et même quand ça va mal aussi, on se souvient quand elle a perdu au US Open avec les lunettes fumées, elle était en pleurs. Elle est très généreuse au niveau de ses émotions. Mm-hmm. Et ça, c'est très payant, je pense, pour le tennis en général.
Oui, exact. Je suis 100% d'accord avec ça. Moi aussi, j'aime beaucoup sa candeur et sa franchise en conférence de presse. Mais bon, c'est un autre titre pour Swiatek qui continue de s'imposer comme la meilleure joueuse au monde. C'est un 13e titre pour elle. On pose la même question. Est-ce que c'est elle qui devra être la fille chassée pour Roland-Garros? C'est-à-dire, est-elle celle qui peut aspirer le plus au titre présentement?
Assurément, c'est une surface qui lui va bien en plus. La variété de ses coups, elle a une maîtrise de tous les coups, justement. Swiatek, c'est drôle, je disais la même chose pour Alcaraz un peu, mais il faut ce mix de puissance, de toucher, de déplacement et de créativité sur terre battue qu'elle possède très bien. Je vois pas trop qui pourra la bousculer sur terre battue. On Jabeur a fait un très bon tournoi, mais a dû se retirer en demi-finale en raison d'une blessure. On verra dans quel état elle sera à Roland-Garros ou pour les prochaines semaines. Je ne crois pas que les Pegula, Coco Gauff, même Rybakina ont les outils pour battre Swiatek sur terre battue, bien qu'elles sont très bonnes et méritent leur place dans le top 5, top 10. Swiatek est sur une autre planète sur terre battue.
Et Sabalenka, en dépit de sa finale qu'elle vient de faire, tu me diras si je me trompe, mais c'est pas elle qui a le jeu le plus formaté pour jouer sur terre battue. C'est une fille de puissance, une fille qui, sur gazon, risque d'être super dangereuse, mais qui n'a pas nécessairement le jeu formaté pour la terre battue. Alors, elle est un peu seule sur sa planète présentement, Iga Swiatek. Elle est double championne de ce tournoi-là. Elle est championne en titre, faut-il le mentionner, de ce tournoi-là. Alors, écoute, ça va être difficile de battre Swiatek sur cette surface-là d'ici Roland-Garros, mais enfin, on verra, c'est pour ça qu'on joue les tournois, je le dis presque à chaque épisode. C'est quand même un bon tournoi pour Sabalenka, là, tu en parlais tout à l'heure, elle a quand même battu Krejcikova, qui est une ancienne championne de Roland-Garros. Paula Badosa, elle l'a battue également. Patapova en demi-finale. Et puis, bon, défaite de 6-3, 6-4 contre Swiatek. Mais dans les circonstances, c'est quand même un bon tournoi parce qu'il y avait beaucoup de calibre dans ces deux premiers matchs. Et dans le cas de Swiatek, c'est aussi un excellent tournoi. Elle a battu l'ancienne numéro 1 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova. Tu l'as dit, bon, 11 Jabeur, ça a été un match où on n'a pas eu de match retrait après un 3-0 et une finale contre Sabalenka. Alors, excellent tournoi pour Swiatek. On va parler des Canadiens au retour parce que là, on a effleuré les champions Hugues. On va regarder ce qui est passé du côté des Canadiens au retour de la pause.
Qu'avez-vous de prévu le dimanche 7 mai? L'Hôtel Montville vous a concocté une expérience yoga inédite. Un cours de yoga au 20e étage avec une vue imprenable sur tout Montréal. Pour les plus gourmands, un petit déjeuner au Monem. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour plus d'informations. Les cartes cadeaux Montville sont toujours une bonne idée. Que ce soit pour la fête des mères, pour offrir à un ami ou pour vous faire plaisir, passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com.
Un joueur dont on n'a pas parlé à Barcelone parce qu'on a parlé des champions, c'est Denis Shapovalov. Lui, il a perdu contre Stefanos Tsitsipas à Barcelone. Quoi penser de cette défaite-là? C'est dans la lignée du reste de la saison, c'est-à-dire un peu de difficulté à enchaîner des victoires, mon cher Hugues.
Ouais, difficile pour Denis, hein, ce match. Je l'ai bien regardé. Son jeu, on sait qu'il tient, qu'il est toujours sur la corde raide un peu, où il veut prendre le dessus au niveau du point très rapidement. Il a raté beaucoup de balles, il a frappé beaucoup de cadres durant ce match-là. Il n'a pas eu vraiment de match contre Tsitsipas. Donc, Denis, longue route vers Roland-Garros. On verra ce qu'il fait cette semaine. Il est dans le tableau à Madrid. Mais bon, c'est encore une fois, c'est une période un peu compliquée pour Denis. On verra ce qui va arriver. On dirait toujours qu'on est un petit peu entre deux avec Shapovalov. On sait que un certain John McEnroe est peut-être considéré comme un entraîneur potentiel pour Denis. Ça sera encore un nouveau changement d'entraîneur après deux changements dans les derniers 12 mois. On verra. Ça serait peut-être plus intéressant pour la saison sur gazon et sur dur, mais je ne m'attends pas à de grands succès de Denis dans les prochaines semaines.
Autre Canadien qui était en action, c'est Alexis Galano dans un Challenger au Mexique. C'est une défaite au deuxième tour. Il n'a pas beaucoup avancé dans les tournois. Là. Il avance à peine des deuxièmes tours et c'est là dans le tournoi de niveau Challenger pour Alexis. Mais on va essayer de parler prochainement. Mais s'il veut gagner des points, il faudra gagner avec un peu plus de régularité. Il sera le premier à l'admettre, j'en suis convaincu. Cette semaine, il est aux États-Unis là, en tournoi. Il va affronter... Emery, un Français dans un Challenger aux États-Unis. Et en terminant notre tour d'horizon sur les Canadiens, je veux qu'on parle d'Eugénie Bouchard. On en a parlé la semaine passée parce que, elle a fait un deuxième tour. Et puis, là, elle vient passer à Madrid le premier tour des qualifications parce que Sorribes Stormo, qui est une joueuse quand même qui a affronté souvent des Canadiennes, s'est retirée. Alors, Hugues, Eugénie Bouchard va peut-être avoir une chance de se qualifier pour... le tournoi à Madrid. Est-ce que ce serait déjà un succès si elle arrivait simplement à se qualifier pour ce tournoi?
Oui. Ben absolument. C'est un tableau de 96 à Madrid. Eugénie est 287e, si je ne me trompe pas, ce matin. Je vais contre Sarah Sorribes-Tormo, qui est autour de la 100e position. Sorribes-Tormo, elle avait d'ailleurs battu l'an passé, si je me souviens bien, à Guadalajara, quand Eugénie avait eu une belle poussée. Le fait qu'elle soit dans les tableaux de qualif d'un WTA 1000, moi, ça me réjouit. C'était une surprise quand j'ai vu le tableau sortir hier. Elle gagne facilement ce match en 2-7, mais Sorribes Stormo s'est retirée en début de deuxième set. C'était 6-1, 3-1 ou 6-0, 3-1. Je pense qu'elle n'était peut-être pas à 100%. Elle joue contre une joueuse autour de la 100e place mondiale aussi au prochain tour. Elle a un deuxième match à gagner et si elle gagne ce deuxième match, elle passe au tableau principal. Ça serait une réussite en soi si Eugénie réussit à se qualifier pour un WTA 1000 dans un tableau de 96. Et moi, je suis content de l'avoir fait les efforts pour repasser là, dans des tableaux de l'envergure d'un WTA 1000. C'est rafraîchissant et ça fait plaisir de voir ça.
Exact. Tu le disais, elle va affronter une Américaine qui s'appelle Elizabeth Mandlik, 147e mondiale, une fille de 21 ans. Moi, pour être bien honnête avec toi, c'est pas une fille que je connais beaucoup, pour ne pas dire pas Elizabeth Mandlik, mais si Eugénie Bouchard peut remporter ce tournoi-là, elle pourra effectivement se qualifier. Ce serait déjà un grand succès et qui sait qu'est-ce qui peut arriver par la suite. Voilà. Pour le plaisir, là, tu t'attends à quoi du côté de d'Eugénie?
Ben, je te l'ai dit, il y a une semaine, je suis curieux de connaître ses objectifs et son état réel, mais je vois les clips qu'elle donne aux journalistes et elle dit j'ai envie, je me suis posé la question, est-ce que j'arrête, est-ce que je fais des bébés? Non, j'ai vraiment envie d'être là, j'ai envie de jouer. Elle sent qu'il lui reste du bon tennis à jouer encore. Donc moi, ce que je vois en ce moment, c'est une fille qui est affamée d'aller au bout du truc en ce moment. Et ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Donc, mais de mettre un objectif sur ce que je pense qu'elle peut atteindre, on sait que souvent du côté féminin, c'est plus ouvert un peu que du côté masculin. Alors qu'elle passe un tour ou deux dans un WTA 1000, pourquoi pas? Est-ce que je la vois comme une fille qui passe dans la ronde des 16 et plus durant ces tournois-là? Je ne suis pas certain de ça, mais je suis content de l'avoir joué à ce niveau-là, Eugénie. Puis je vous le dis, on travaille encore pour l'avoir au podcast parce que j'ai envie de lui parler, qu'elle nous partage avec l'équipe du podcast, justement, ses ambitions, ses objectifs pour cette année. On travaille sur le cas. Si M. McCormack, qui est son agent, m'entend en ce moment, ben, on a une requête pour parler à Eugénie dans les prochains jours. Je suis curieux de savoir où elle se situe dans sa tête. J'aimerais avoir une discussion plus longue avec elle, mais je suis content de l'avoir joué à ce niveau-là en ce moment.
100% d'accord. Bon, parlant de Madrid, plongeons-nous dans ce tournoi-là et commençons, je parlais des Canadiens, avec Félix Auger-Aliassim. Ce sera le retour de Félix en action. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vu. Écoute, je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder son tableau.
J'ai vu le tableau.
Et monsieur, comme on dit, ce ne sera pas simple pour Félix Auger-Aliassim. Il a un bail au premier tour, mais affrontera possiblement Dusan Lajovic au deuxième tour, qui vient de remporter un tournoi qui vient de battre coup sur coup Rublev et Novak Djokovic. Et ça, c'est juste le premier tour, juste son premier match. Méchant coup d'entrée pour Félix Auger-Aliassim.
Ouais. Ben, soulignons que Félix a fait le maximum avec sa période de repos dans les dernières semaines. Il a obtenu son permis de conduire à Monaco. On sait que Félix est résident à Monégasque. Donc, il a maintenant son permis de conduire en Europe. Il est aussi le nouvel ambassadeur pour la marque Dior au niveau international. Ça démontre encore une fois à quel point les commanditaires français après Renault aiment beaucoup Félix Auger-Aliassim. Donc, je pense qu'il va être un super ambassadeur pour la marque Dior. Donc, bravo à Félix pour ça. Mais mon Dieu, qu'il y a de la difficulté avec ses entrées de tournoi. Et là, il tombe sur un Lajovic. Et je le répète, qui est en grande forme. Il a mérité sa victoire contre Djokovic et contre Rublev. C'est un des meilleurs joueurs du circuit en termes de forme actuelle, là, Lajovic. Ça sera un deuxième tour ou un premier match pour Félix. Extrêmement compliqué à négocier. Écoute, s'il réussit à le gagner, pour moi, ça va être une sacrée réussite en passant. Je mets Lajovic favori sur mon bracket challenge. Là, donc dans mes prédictions pour Madrid, j'ai mis que Lajovic serait pour gagner contre Félix si jamais il se rencontre.
Et écoute, je veux pas ajouter du négativisme pour rien, mais l'affiche de Félix contre Lajovic, c'est 0-2. Lajovic l'a battu à Toronto en 2021 et l'a battu à Brisbane en 2020.
Grosse commande. Grosse commande.
Mais ça fait deux ans ou presque qu'ils ne se sont pas affrontés. Alors, Félix n'est pas le même joueur des deux dernières années.
C'est vrai.
Est-ce qu'on peut se rabattre là-dessus pour dire, ben écoute, Félix n'est pas le même joueur, mais honnêtement, dans le contexte actuel, Dusan Lajovic, c'est pas loin d'être le pire joueur qu'il pouvait affronter aussi rapidement dans le tableau ouais. Avec les succès qu'il vient de connaître. Mais supposons qu'il le passe, tu aurais probablement au troisième tour un Ben Shelton ou un Sonego. Dans les deux cas, ça serait compliqué. Et après ça, tu aurais peut-être un Tiafo, un Cerundolo, en quart de finale, un Tsitsipas, en demi-finale, un Medvedev. S'il fallait qu'il se rende en finale, ben, il aurait peut-être un Carlos Alcaraz
dans les pattes. Alex, allons-y pour le proverbial, un match à la fois.
Exact. Mais tu sais, j'aime bien regarder les tableaux. Moi, je ne suis pas comme les athlètes. Là. J'aime beaucoup regarder en avance ce qui s'en vient. Mais ce sera pas simple pour Félix Auger-Aliassim. Je regardais le tableau de Denis Shapovalov. C'est un peu plus accessible, je vais le dire comme ça. Bon, lui aussi, il a un bail au premier tour. C'est Zhang, le 99e joueur mondial au deuxième tour, possiblement. Et après ça, ben, tu aurais peut-être un Cameron Norrie ou un Taylor Fritz, mais il a une fiche gagnante contre Taylor Fritz. Et en fait, quand je regarde les adversaires potentiels au quatrième tour, il a une fiche gagnante contre à peu près tous les joueurs, là, ben, contre tous les joueurs potentiels. Et au troisième tour, il a une fiche de 0-2 contre Cameron Norrie, mais ça serait un bon timing pour changer cette fiche-là. Mais encore là, il faudrait passer le premier tour. On en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Il n'y a rien de facile pour Chapeau depuis le début de la saison.
J'ai pas confiance, Alex, en ce moment, en tout cas, à son jeu sur terre battue. Donc, les attentes sont assez basses en ce moment, je dirais, pour Denis. En ce qui me concerne, en tout cas, sur terre battue.
Assez basses pour dire ne passera même oui. peut-être le premier tour oui. contre Jang?
Peut-être un tour ou deux, un match ou deux, mais ça irait pas plus loin selon moi.
Ouais. Ça, son deuxième match, ce serait Cameron Norrie. Il a une fiche de 0-2 contre Cameron Norrie. Ouais. Ben, enfin, si, évidemment, si la logique est respectée, là, je tiens pour acquis que les favoris remportent quand je fais une prédiction ouais. De ce genre-là. Quand on regarde le reste du tableau, ben, c'est Carlos Alcaraz hein, qui est au sommet de ce tableau-là. C'est pas surprenant. La deuxième tête de série, ben, tout au bas du tableau, c'est Daniil Medvedev. Et là, je ne sais pas si tu as regardé le tableau de Daniil Medvedev un petit peu, mais on pourrait avoir un deuxième tour entre Medvedev et Andy Murray.
Ouais, ouais, écoute, mais on sait que Murray non plus n'est pas un grand fan de terre battue historiquement. Je pense que Medvedev aurait le dessus sur Murray. Mais je vais dire... Alcaraz a été blessé, a commencé sa saison sur terre battue un petit peu plus tard, mais lui aussi devra gérer son calendrier habilement à d'ici Roland-Garros, qui ne se brûle pas, qui s'il peut, il joue tellement bien qu'il peut se rendre encore de façon, je dirais pas assurée, mais de très bonnes chances de se rendre loin dans ce tableau à Madrid. Est-ce qu'il va jouer à Rome aussi? Ça fait beaucoup de tennis qu'il enchaînera. Il a seulement 19 ans, mais je pense qu'Alcaraz doit être prudent sur la gestion de son calendrier d'ici Roland-Garros. Et Medvedev, ben on verra s'il réussira à se rendre en quart de finale ou demi-finale, comme il l'avait si bien fait à Monte-Carlo. Mais je pense que Medvedev va être intéressant à suivre aussi sur la terre battue de Madrid.
Je regardais le tableau des hommes et honnêtement, on a fait pas mal le tour pour les matchs de premier tour. Là. Il n'y a pas beaucoup de clash de titans dans ce tableau-là au premier tour. Si on va du côté des femmes, Hugues à Madrid, toujours on disait que Eugénie pourrait se qualifier. Bon, tu t'attends à quoi de ce côté-là, du côté de Madrid? Est-ce que tu penses que Świątek va remporter ce tournoi-là, un deuxième tournoi de titre?
Il y a des fortes chances que Świątek aille jusqu'au bout. Encore une fois, je vous l'ai dit, elle est supérieure à tout le groupe de tête là, sur terre battue. Mais Alex, ma grande surprise, c'est de voir Bianca Andreescu dans ce tableau. Donc, on a Félix, on a Leila, on a Marino qui sont dans le tableau principal et Bianca Andreescu. Encore une fois, comme Eugénie était une surprise sur le tableau des qualifications, Bianca Andreescu dans le tableau principal, je ne m'attendais pas à la voir jouer sur terre battue, en fait, carrément, après sa fameuse blessure à Miami, au ligament du pied droit, la douleur qu'elle avait ressentie et tout ça. On savait qu'elle avait recommencé à frapper un peu à la Billie Jean King Cup la semaine passée, mais je ne pensais pas la revoir jouer dans un WTA 1000 si rapidement. Dans quelle disposition est Bianca? Ben, c'est quand même cool de la revoir jouer si rapidement. Et j'ai surtout hâte de voir Leila qui a emmagasiné, j'en suis certain, beaucoup de confiance et d'énergie à la Coupe Billie Jean King il y a une semaine. Moi, je m'attends à une grosse saison de terre battue de Leila Fernandez. Bianca, point d'interrogation pour sa blessure, mais j'ai bien hâte de voir comment Leila va se comporter cette semaine. Mais oui, du côté du tableau féminin, en général, Świątek est pour moi la favorite cette semaine.
Parlons-en de Bianca Andreescu parce que, bon, moi aussi, j'ai été super surpris de la voir dans ce tableau-là. Et quand je regardais le tableau, honnêtement, je ne suis pas convaincu que ça va être simple parce qu'elle a, elle aussi, un bail au premier tour, mais au deuxième tour, ce serait possiblement Gracheva. Et Gracheva, elle a eu des résultats assez probants là, cette année. Elle a une finale à Austin, elle a un quatrième tour à Indian Wells et à Miami. Hâte de voir ce que ça va donner sur terre battue. Là. Elle a joué qu'à Charleston et elle a fait un deuxième tour, là, ce qui n'est pas la mer à boire. Mais il reste que c'est une fille qui a certains résultats intéressants cette année, Gracheva. Et s'il fallait qu'elle passe Gracheva, ben, ce serait Krejcikova. Et là, Krejcikova, c'est hyper dangereux sur terre battue, c'est une ancienne championne de Roland-Garros. Alors, c'est un défi de taille pour une fille qui, il n'y a pas si longtemps, sortait d'un terrain avec l'équipe médicale. Là.
Exact. Non, j'étais étonné quand j'ai vu ça hier. J'en parlais avec Jean-Charles Lajoie, notre collègue ce matin, et puis tout le monde était extrêmement surpris suite à sa blessure. Donc, j'ai bien hâte de voir comment elle se déplace, sa confiance pour glisser aussi sur son pied droit. Mais bon, si elle joue, elle doit se sentir prête. Et je suis content de l'avoir revenir si tôt d'un autre côté parce qu'elle jouait tellement bien depuis quelques semaines. Donc, si elle reprend là où elle a laissé du côté américain, on peut s'attendre quand même à du beau tennis de la part de Bianca Andreescu et qu'elle remonte en puissance en vue de Roland, en vue de Wimbledon et en vue de la tournée sur dur qui va passer par Toronto. Moi, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer avec Bianca cette année une fois qu'elle sera à 100%.
Je regardais également le tableau de Leila Annie Fernandez. Et honnêtement, je l'ai défendu beaucoup dans les dernières semaines parce que ses tableaux étaient compliqués. Et bien franchement, ce ne sera pas bien ben plus simple cette semaine parce que c'est un autre tableau. Honnêtement, ce sera pas simple. Si elle passe quelques tours, là, déjà, ce sera bon. Bon, il y a Andreeva au premier tour là, qui est tout près de la 200e place mondiale. De ce côté-là, ça devrait passer. Mais déjà, dès le deuxième tour, on aurait Béatrice Haddad Maia, ouais. 14e joueuse mondiale. Et après ça, ben, ça ne fait que s'améliorer, là, ou presque, là, Magdalinette qui est 19e. Après ça, ouais. Sabalenka peut-être. Et là, je me rends même pas à Caroline Garcia en quart de finale. Écoute, déjà, dès le deuxième tour, tu as une Béatrice Haddad Maia dans les jambes, ouais. qui est une excellente joueuse. Il n'y a rien de facile pour Leila. Elle n'a pas de... Comment dire? Elle n'a pas de cause avancée et passer go et réclamer 200$.
Mais Alex, on le sait et elle le sait aussi pour lui avoir parlé il y a deux semaines qu'elle doit aller chercher ces grosses victoires-là. Et moi, dans le match contre Haddad Maia, je l'ai mis gagnante sur mon tableau, là, si elle se rend là, évidemment. Et je pense que l'état d'esprit de Leila, c'est je vais aller chercher ces matchs-là maintenant. Je dois aller les chercher. Donc, je m'attends à des belles choses dans les prochaines semaines de Leila et pourquoi pas dès cette semaine. Et je précise, j'ai dit Toronto pour les filles cette année. Évidemment, c'est à Montréal que les dames seront à l'Avenir Banque nationale cette année.
Lourde commande pour Rebecca Marino également parce que, oui. Bon, elle va avoir Lin Zhu dans les pattes qui est 39e mondiale. Rebecca n'a pas gagné avec beaucoup de régularité, là, quelques tournois ici et là où elle a avancé, mais de façon générale, elle n'a pas gagné beaucoup. Oui. Alors, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là.
Oui, puis évidemment, ces deux grosses armes que sont son premier service et son coup droit, son one-two punch, sont moins efficaces sur une surface lente comme la terre battue, même si la terre battue de la Calle Màgica de Madrid est plus rapide que celle de Monte-Carlo, notamment, parce qu'on en a beaucoup parlé avec les hommes là, qui disent que les surfaces en ce moment sont très, très lentes. Rebecca pourra pas compter sur ses coups qui lui donnent beaucoup de points gratuits habituellement à Madrid.
J'en parlais tout à l'heure, c'est Swiatek qui est la première tête de série dans ce tableau-là. C'est Sabalenka qui est tout au bas du tableau. Alors, on a une potentielle reprise de la finale de ce qu'on a vu la semaine passée à Stuttgart. Peut-être fait intéressant pour Swiatek, elle pourrait affronter Raducanu au deuxième tour, mais est-ce que ça en vaut encore la peine qu'on en parle comme
Moi, j'ai envie de dire, pauvre Emma Raducanu, là, c'est compliqué pour elle. Trois défaites de suite dans ses premiers matchs et je ne vois pas comment elle peut aller chercher un match contre Swiatek en ce moment.
Bon, Hugues, champion du côté des hommes, champion du côté des femmes avant qu'on aille à la pause.
Je poursuis avec Alcaraz et Swiatek, à moins qu'ils décident de relâcher un peu parce qu'ils jouent trop de tennis, là, mais je ne peux pas faire autrement qu'aller avec les deux premiers favoris des tableaux en ce moment.
Donc, OK, Alcaraz, moi, je vais y aller avec Alcaraz du côté des hommes et je vais aller avec Sabalenka du côté des femmes qui va prendre sa revanche.
OK.
Je vais y aller de cette façon-là. On fait une courte pause et au retour, on a Yannick Noah qui a été honoré, tu vas nous en parler.
Qu'avez-vous de prévu le dimanche 7 mai? L'Hôtel Montville vous a concocté une expérience yoga inédite. Un cours de yoga au 20e étage avec une vue imprenable sur tout Montréal. Pour les plus gourmands, un petit déjeuner au Monem. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour plus d'informations. Les cartes cadeaux Montville sont toujours une bonne idée. Que ce soit pour la fête des mères, pour offrir à un ami ou pour vous faire plaisir, passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com.
De retour sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque nationale. Un dernier bloc un peu plus léger, Hugues, un joueur que tu as vu évoluer, qu'on va honorer du côté de Yannick Noah. On va l'honorer à Roland-Garros et c'est un honneur bien mérité pour une légende du tennis français.
Oui, 40e de sa victoire à Roland-Garros en 1983. Victoire qui a chamboulé, marqué toute la France et plus, je dirais, parce que c'était vraiment une victoire touchante là, de ce joueur découvert par Arthur Ashe au Cameroun. Très belle histoire que celle de Yannick Noah et un personnage important pour la France, non seulement pour cette victoire à Roland-Garros contre Mats Wilander, qui était le champion en titre, mais on sait qu'Yannick Noah est devenu chanteur après, belle carrière dans la musique. Champion comme capitaine de Coupe Davis aussi dans une édition improbable en 1991 avec Guy Forget, Henri Lecomte, qui avait battu les Américains avec Agassi et Sampras et l'équipe numéro un en double à l'époque, Flax et Gouzo. C'est un personnage énorme en France, Yannick Noah, et je ne suis pas surpris de cet hommage que Roland Garros va lui rendre cette année.
Ouais, ce qu'on va fêter, c'est le 40e anniversaire de cette victoire-là à Roland Garros. C'est toujours spécial, là, on le sait, quand un athlète local remporte un tournoi aussi prestigieux à la maison, écoute, c'est pas banal et c'est un grand de l'histoire du sport français, je vais dire comme ça, parce que le tennis, c'est un sport important en France, là, on le sait très bien. Hugues, je te remercie infiniment pour cet épisode de Sur la ligne. Une fois de plus, je salue le collègue Nicolas Richard qui était en affectation pour la presse. Et on va le revoir très bientôt. Et ben, comme Nico n'est pas là, ben, c'est toi qui as le lourd mandat, mais important mandat, Hugues, de terminer l'émission.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. Et bon tennis, Eugénie, à Madrid. J'ai bien hâte de voir jusqu'où tu vas te rendre.